Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêt à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? C'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous pouvez donner votre avis de chez vous en temps réel. Alors, huitième émission en direct. Bonsoir aux chroniqueurs du soir. Bonsoir Joe, qui réalise cette émission.
Bonsoir.
Bonsoir donc Florian.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Puis bonsoir Théo également.
Bonsoir.
Ah puis j'ai oublié, bonsoir, alors attends, vas-y. Orlane. Prénom pas facile à se rappeler. Bon, bonsoir Orlane également. Allez, tout est prêt, on va ouvrir nos tiroirs et les votes sur la page radio-g.fr. Bienvenue dans Mon Tiroir. Alors avant de connaître les sujets retrouvés dans vos tiroirs, on va aborder quelques brèves locales lues dans les journaux. Alors à voir si ça vous intéresse autour de la table et vous chez vous hein, ou pas. On rappelle que si vous nous écoutez en direct, vous pouvez donner votre avis en votant anonymement de chez vous sur radio-g.fr. Alors premièrement, avec l'arrivée de la foire Saint-Martin à Angers, le parking de la Rochefoucauld restera inaccessible pendant plus d'un mois. Vous étiez égaré, vous, place de la Rochefoucauld, non? Parce que c'est un des rares parkings gratuits, quand même, d'Angers. Donc, ce sera fermé à partir du 23 octobre, 0h01. Donc, jusqu'au vendredi 8 décembre, quand même, à 18h.
Attention à la fourrière.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le parking se vide de ses voitures, hein, pour accueillir la foire. Et donc, si il y en a, il y a 1200 places, normalement, sur la... Donc, il va falloir recaser ces 1200 voitures. Et sinon, à partir, effectivement, du 23 octobre, ce sera direction fourrière. Donc, ça vous concerne pas, vous, au niveau voiture? Pas trop? Vous n'en avez pas?
Ben, un petit peu, si, quand même.
Quand même, faut faire attention un petit peu. Enfin, on se fait avoir qu'une fois. Hein. Samedi matin prochain, 21 octobre, seront diffusés deux courts-métrages au cinéma Les 400 coups. Et dans l'un d'eux, Lisière, réalisé par Xavier Labarre, il y a un acteur que vous connaissez. Il a fait une apparition de 20 secondes et rien que pour ça, il faut y aller. Olivier rigole parce qu'il sait pourquoi.
Bah, j'ai mis stop déjà. C'est...
Alors, c'est à 10h30 au cinéma Les 400 coups, samedi prochain. Oui, bon, l'acteur, c'est moi, ok? Mais je vais 10 secondes, j'ai fait 10 secondes d'apparition dans ce court-métrage, voilà. Donc, si
vous... T'es sûr que t'es pas coupé au montage?
Je sais pas, je vais découvrir ça, voilà. Alors, il restait plus de 2 places, donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas encore vos places, effectivement, voilà. C'est le samedi matin à 10h30 au 400 coups.
Et tu parles dedans ou c'est juste?
Oui, je parle, en fait, je fais un psychiatre. Et puis, je parle à une fille qui est pas très en forme, en fait.
10 secondes, c'est court comme thérapie.
Et 10 secondes, alors, mon texte de mémoire, c'est si tu parles pas, on va pas y arriver. Ou un truc comme ça. Voilà. c'est tout ce que je dis. Bref. Eh ben, écoutez, oui, bah, j'ai 25%.
C'était vraiment très intéressant.
Oui, merci. Allez, les habitants d'une petite commune du Maine-et-Loire sont venus en aide à une vache coincée dans la vase alors qu'elle pâturait dans un champ. C'est en campagne, hein, c'est le Maine-et-Loire. Alors, c'est une opération de sauvetage peu ordinaire qui s'est déroulée à Briolet, commune du Maine-et-Loire, proche d'Angers. Alors, selon un article de 20 minutes, une vache pâturait dans un champ lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans la vase et des témoins ont alerté donc les sapeurs-pompiers. Et une quinzaine de personnes sont venues pour sortir la vache. Donc, le mammifère a été hissé grâce à un engin élévateur. Voilà. Elle est aventureuse, a déclaré son propriétaire. Tu m'étonnes. Ok, j'arrive à avoir 100% avec ça, donc je pense que je vais pouvoir toutes les faire ce soir. Ah si, quand même, il y a eu un petit truc. Allez, reset. Votez de chez vous, hein, si vous voulez. Et puis, vous pouvez également dire un petit coucou sur le chat. À la fin du mois d'octobre, alors ça c'est sérieux, c'est assez intéressant, l'Université catholique de l'Ouest d'Angers va permettre aux lycéens de première et terminale d'assister à des cours pendant quelques jours afin de les aider à mieux définir leur orientation post-bac. Est-ce que vous, quand vous étiez lycéen, est-ce que ça vous aurait intéressé de voir un petit peu comment c'est la fac pour voir si ça pouvait vous correspondre, si ça pouvait être intéressant ou pas?
Je crois que ça existe depuis quelques années déjà.
Mais oui, ça existe.
Ah, ça existait déjà.
Ouais. Nous, c'était pendant toute une journée. C'était une journée d'intégration. Et du coup, on allait pendant toute une journée
assister à un cours, etc.
Ouais. Bah, on suivait en fait un élève. On avait un élève avec qui on était attitré.
Ah oui.
Et en fait, on le suivait sur sa journée, quoi.
Ah bah, c'est sympa. Ok. Bon, bah, écoutez, apparemment, du 24 au 27 octobre, l'Université donc, catholique de l'Ouest ouvre ses cours en licence au lycée de première et terminale afin de les aider à approfondir leurs réflexions. Voilà, et ça sera également à Nantes. Donc, vous avez toutes les infos sur angers.uco.fr et nantes.uco.fr. Ouf, je suis à 50%, je crois que je vais m'arrêter là.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il est temps maintenant d'ouvrir vos tiroirs. Florian, on parle de quoi ?
Eh bien, je vais vous parler d'un magazine.
Oui.
Voilà, j'ai retrouvé un vieux magazine dans mon tiroir.
Pif Gadget.
Non. Ça s'appelle Tradition Magazine.
Oh là 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 là, mon Dieu, c'est comme Chasse et Pêche ou...
Non, pas du tout. Alors en fait, c'est un mensuel ou un bimestriel, je ne sais plus exactement, qui m'a suivi une bonne partie de mon adolescence, qui était consacré à l'Empire napoléonien.
Oh.
Et notamment à la description des uniformes de la grande armée de Napoléon. Voilà. Alors pas que, mais en tout cas, c'était ça. Donc j'aimais bien parce qu'il y avait pas mal de dessins et d'explications sur comment était organisée la grande armée de Napoléon. Mais j'ai plutôt envie de vous parler ce soir, pas de ça du tout en fait, mais de la très intéressante collection de livres historiques, infographies aux éditions Passé Composé. Je pense que Olivier, tu connais, puisque tu en as un exemplaire
sur,
chez toi.
L'Empire romain, je crois.
Tout à fait, voilà. Et ils viennent
passionnant.
Et le dernier livre en fait de cette collection vient de paraître tout récemment et c'est justement consacré à l'Empire napoléonien. Donc tout ce qu'on connaît sur l'Empire napoléonien concentré sous forme d'illustrations, de graphiques, en tout cas d'infographies. En fait, le nom s'appelle comme ça, c'est infographie. Donc c'est très intéressant, c'est très riche, très pointu, très complet. Il faut vraiment aller chercher les infos dans les illustrations et dans les infographies. Il faut s'accrocher quand même pas mal parce que des fois c'est pas forcément très facile
chiffres,
à comprendre. Il y a des chiffres, il y a des enfin c'est très imagé. Alors il y a aussi des explications à côté, hein, très écrites.
Ouais.
Donc en fait chacun soit lit soit regarde les images.
Il faut connaître un peu quand même.
C'est pratique. Pas forcément parce que c'est quand même plutôt bien expliqué. Quand même il y a des légendes.
Mm-hmm.
Il faut d'abord lire les légendes avant d'aller voir du coup les infographies parce que sinon on n'y comprend absolument rien aux infographies.
Oui, quand même.
Forcément. Mais c'est plutôt bien présenté. Et ça change en fait que d'un livre très très littéral avec plein d'infos, tout ça. Donc les infos ils sont dans le bouquin.
Mais c'est fait pour les enfants aussi. Il y a un âge spécifique ou c'est vraiment la littérature adulte plutôt?
Oui, les enfants peuvent se mettre dedans, mais
ouais, c'est plus adulte.
C'est quand même pas mal pointu. Hein.
Ouais. Ouais.
Et donc c'est le quatrième livre de cette collection-là, puisque avant le tout premier c'était la Rome antique, donc c'était infographie de la Rome antique.
Mm-hmm.
Il y a eu l'infographie de la Révolution française et il y a eu l'infographie des guerres franco-allemandes, donc première guerre et deuxième guerre.
D'accord. Tu dois passer des soirées passionnantes.
Et j'ai lu ça hier soir. non mais c'est vraiment bien fait comme bouquin.
D'accord.
Alors c'est assez grand, ils sont bons.
donc ça donne envie.
Ah, c'est bon, stop.
Oh non. On est à 75%. Hein.
Ah là là. Non, mais je vous conseille vraiment.
Plus chose avant de
je vous conseille pas. Vraiment cette collection. Bah, du coup, voilà, 100%. Voilà.
Et c'est tout, t'as fini? Ah, bah, t'as réussi.
Ceci dit, on va en.
Ah, il s'est pris un stop quand même.
Ceci dit, oui, Olivier.
Napoléon, on va en manger, hein, parce qu'il sort bientôt le film sur Napoléon de Ridley Scott au mois de novembre, donc. Oui, avec Joaquin Phoenix. Donc là, je pense qu'on va y avoir beaucoup de battages là-dessus.
C'est ok. Bah, merci Florian. Joe, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ah oui. Ah, il a apporté quelque chose, Joe. Alors attention.
Alors oui, effectivement, j'ai apporté un objet. Ce suspense. On rappelle que c'est toujours pas radiophonique hein, de rapporter des objets parce que. Bah,
oui, mais nous on aime bien.
C'est juste pour les chroniqueurs. Est-ce que vous voyez ce que c'est ça tous?
Une smart box.
Voilà, une smart box ou Wonder box ou on s'en fout des marques. Il y en a 12 000. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont, alors je vais pas dire offert, qui ont reçu des smart box déjà?
Non.
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 Ouais, si, une fois.
Ah ouais, merci, parce que sinon là, je suis vraiment tout seul.
On en a vu quand même, on a feuilleté ce qu'il y avait dedans, d'accord, etc. C'était jamais, enfin, c'était loin, c'était pas bon.
Et ben alors, sache que du coup, très souvent, les gens se disent que c'est un super cadeau parce que t'as plein de trucs possibles à faire dedans et c'est génial. Sachez que c'est l'un des pires cadeaux que vous puissiez faire.
C'est clair.
Ça veut vraiment dire, je te connais pas trop, mais au moins, vas-y, fais ton choix. Ouais. Tu vois, sachant que, pourquoi je dis que c'est un des pires cadeaux à faire, c'est parce que c'est connu de ces marques-là, on ne les fait pas. Vraiment, tu ne les fais pas. Et c'est censé être garanti à vie, sauf qu'en fait, il faut qu'à chaque fois, tu ailles sur leur site et que tu le remettes. Mais le principe des Wonderbox, c'est qu'on vous l'offre. Vous dites, oh, bah, je me ferai un spa, je me ferai un resto, je me ferai telle aventure. On les fait un petit peu plus, les aventures, genre, soit en parachute, etc. Ouais. Mais c'est des trucs qui coûtent beaucoup plus cher. Mais tu ne le fais jamais, vraiment. Les trucs, alors celui-là, franchement, je pense que ça fait 6 mois, 1 an qu'on l'a. Et qu'on l'a chez nous, et plus que ça.
Puis généralement c'est loin, parce que le voyage, j'ai pas compris.
Ça dépend. En vrai, t'en as dans le coin. Là, ça te met sur la France.
C'est un smartphone de quoi? C'est un quoi?
Là, c'est alors joyeux anniversaire. Et t'as repas gourmand pour deux, dégustation, soins relaxants ou activités sportives.
D'accord.
Il y a plus que la France sur celui-ci.
Ah ouais.
Ouais, il y a Espagne et tout.
Et vous n'avez pas trouvé ce qui vous plaît?
Bah, c'est un petit peu limité pour le coup.
Ouais.
En fait, sur Angers, par exemple, le seul truc qu'il y a dans les restos, ça va être un salon de thé.
Ouais.
Tu vois.
Et c'est un peu léger. Tout.
Et après, il y a des trucs, mais c'est vraiment pas ouf. Sachant en plus que quand on appelle pour réserver, très souvent, tu dis bonjour, je viens d'une Wonderbox. Ah, je suis désolée, madame, on n'a pas de place.
Ouais, bah c'est ça.
En fait,
ouais.
ça ah oui, fichier, à ce moment-là. En fait. Ah oui, vraiment, t'es blacklisté, faut pas dire.
Bah, ou alors,
il faut
que tu rajoutes un supplément. Quand même,
Non, c'est pas un box. Les box.
Les box.
Ah bah oui, parce que eux, ça leur rapporte pas grand chose, ça leur fait de la pub pour leur truc. Donc voilà, c'est vraiment, n'offrez pas ça aux gens, s'il vous plaît. Et quand vous devez y penser, quand vous vous dites non, mais c'est pas grave, je vais offrir une box, cherchez un petit peu plus loin, parce que vraiment, franchement, personne ne l'utilise. Soyons honnêtes. Olivier?
Bruno, enfin, tu mens, parce qu'on nous a offert une smartbox.
Ah non, mais c'est pas une smartbox, c'est simili escapade, c'est pas la même chose.
Si. On s'est retrouvé dans un château dans les Pays de la Loire, chez des gens, en fait, dans une chambre d'hôte.
Ah, la avec limite. Une...
Ah oui, effectivement.
Et alors,
oui,
est-ce que c'était bien?
Bah, c'est chambre d'hôte, c'est spécial à vivre quand même, avec les gamins qui courent partout, de la famille. On est dans une chambre à côté des parents. Enfin, c'est
quand
très...
on dit c'est spécial, c'est rarement. Positif. je sens que.
Bah, on connaissait pas les gens, donc on arrive et puis on était tout seul. On arrive comme ça dans la famille juste pour une nuit. Et...
Ça, c'est dans la famille des gens.
Bah, c'est chambre d'hôte, ouais.
Le cadre
vrai chambre d'hôte, quoi. Du coup, c'est dans la maison de l'hôte.
Ouais, et ben voilà. Bah, écoutez, sachez qu'il en existe de tous les genres, mais les gens ne les font pas, donc vous allez juste perdre votre argent et
ne pas offrir un truc.
Ouais, c'est vrai, non, mais voilà. Non, mais, ben oui, non, mais tu les renouvelles, mais vraiment, c'est.
En fait, ce qu'il faut, c'est feuilleter, prendre les idées et payer le truc vraiment, en fait, payer l'activité à la personne.
Ah oui, à la limite, ouais, mais ou alors sinon, il faut le faire direct, mais voilà, sinon, on les.
Bon, en tout cas, on va tester quand. Quand tu arrives à faire ça et à choisir un resto, un hôtel, un lieu, t'es rarement très bien accueilli quand même, parce que du coup, tu le disais, forcément, ils aiment pas trop les gens qui viennent ça avec coûte. Ça, parce que du coup, c'est gratuit. Ils t'offrent juste leur repas, un petit déj ou la nuit, je sais pas quoi, mais en fait, tu prends rien de plus, donc du coup, ils aiment pas trop que.
Ouais, ça, c'est dans une formule qui est déjà payée et où eux, ils ont pas directement, je pense, beaucoup de sous dessus.
Ok, mais en tout cas, t'as eu un 100%, dis donc.
C'était vraiment très intéressant.
J'adore me donner tout seul et c'est intéressant. Très, très drôle.
Ok, allez, on poursuit maintenant avec Olivier.
Yes. Alors, dans mon tiroir, j'ai trouvé un ticket de cinéma. Ça va être compliqué, hein, parce que... Bon, bref.
Pourquoi?
Non, mais c'est le...
Il y a son micro qui se dévisse. Ah là là, en direct, en direct.
Non, j'ai retrouvé un ticket de cinéma pour un film que je suis allé voir il n'y a pas longtemps, le 4 octobre, qui s'appelle Le règne animal. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Ah oui, bah c'est récent, ça.
Oui, bah oui, c'est récent. C'est sorti le 4 octobre. Donc, c'est un film français de Thomas. Oh là!
Il y a son micro qui se casse la
manche.
Il te tient le manche. Bon, d'accord, ok, pas de souci.
Donc, c'est un film français de Thomas Cayley. Et c'est une vraie merveille. Alors, enfin, moi, j'adorais. Le synopsis, donc, c'est en France, eh bien, les humains se transforment en animaux. Donc, on a un père, Romain Duris, et son fils, qui est joué par Paul Kircher, qui vont être confrontés à la transformation de leur mère et de leur femme.
Donc, voilà. Donc, transformation mère, en animal, ça.
Mais leur mère, enfin la mère se transforme.
Bah, non, c'est vraiment le tout début. Règne animal.
C'est le tout début. Alors, c'est un film qui joue sur plusieurs type de cinéma. C'est un film fantastique, ça c'est clair, mais c'est aussi un film sur la relation père-fils. Les deux acteurs sont extraordinaires. Romain Duris, on ne le présente plus. Voilà, ça fait 30 ans qu'il fait du cinéma. Et puis Paul Kircher, c'est la révélation. À 21 ans, je vous le dis, hein, c'est la future star du cinéma français. Paul Kircher, retenez ce nom. Ce qui m'a plu, c'est que c'est les effets spéciaux de dingue. On est vraiment, c'est mieux qu'X-Men. Alors, vous verrez, il y a le rôle d'un quelqu'un qui joue le rôle d'un aigle. Mmh. Et c'est vraiment bluffant. Acteur incroyable, je l'ai dit. Il y a surtout une réflexion sur l'autre, sur les différences, les personnes différentes. Ça pose plein de questions, notamment sur le racisme. Comment on traite l'autre, tout ce qui est différent. Ça traite beaucoup de la violence. Même à un moment donné, on voit un petit peu ce qu'on appelle des ratonnades, quoi. En fait, les humains animaux sont pourchassés. Ça fait vraiment très très peur. Et puis c'est aussi complètement lunaire comme film. Les animaux en fait se réfugient dans une forêt, donc on voit plein de toutes sortes d'animaux. C'est très très poétique. Et en plus ça se passe dans les Landes. Et alors la forêt des Landes, elle est exceptionnellement filmée dans ce film. À un moment donné, il y a une battue avec des échasses. En fait, les villageois ont des échasses et ils essayent de combattre les animaux en les chassant. Et ça fait un truc complètement
surréaliste,
poétique, surréaliste. Enfin, je me demande ce que les Américains ont pensé de ce film, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chassiers aux États-Unis. C'est vraiment un film, alors je ne peux pas comparer des films fantastiques américains, mais on peut le faire, c'est vraiment, ça tient largement la comparaison. Ouais,
on dit quand même que c'est un film de genre. Alors quand on dit que c'est un film de genre français,
c'est
vraiment
un film de plusieurs genres, moi je pense.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Et c'est pas le. Ouais, non, franchement, c'est un très très bon divertissement. Et en plus, je vous dis, il y a une vraie réflexion. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Est-ce que vous y êtes allé? Non.
Alors, autour de la table, quelqu'un a été voir le règne animal, Théo?
Non, mais j'en ai entendu parler. Ça a l'air très très intéressant.
Ok, Joe.
Pour être très honnête, moi quand je l'ai vu, je me suis dit que franchement ça me plairait pas et que ce serait vraiment un peu cheap. Tu vois, j'avais peur de ce côté X-Men, mais qu'on revoie les effets des années 2000, quoi. Bon, je connais ton œil sur le cinéma, ça me donne peut-être un petit peu plus envie de le voir, j'avoue, mais je sais pas, j'ai un peu peur que ça fasse cringe vu que c'est du français.
Non, c'est pas de cheap, hein.
Ouais.
Après, moi je suis allé à une avant-première, et c'est vrai que ça m'a étonné parce que j'ai vu plein de gens partir.
Pendant la séance.
Ouais. Et je pense qu'ils étaient pas, ils s'attendaient pas à un film fantastique, quoi. Ouais, ils s'attendaient à un film français. Enfin, bas de gamme, truc, relation père-fils normal.
Français fantastique. Mais j'ai vraiment vu des. Vraiment en sérieux ou.
Il y avait des gamins qui partaient. Je pense des fois c'est un peu gore quand même. Mais ouais, c'est surprenant.
Bon, ok. Bah écoute, t'es à 50% sur la jauge, donc t'as quand même peut-être intéressé la moitié de ce. Ok, excuse-moi, j'ai parlé sur le jingle. Oui, excuse-moi, pas de souci. Allez, Sandra. On parle de quoi ?
Alors, moi, j'ai trouvé un Flyers dans mon tiroir. Et du coup, je me suis intéressée aux expositions, aux sorties qu'il y a à faire. Parce que dans une semaine, c'est les vacances.
Ah, c'est un flyer de quoi ? Ça parlait de quoi, ton flyer ?
De l'exposition, en fait, du mosaïste Odorico. Vous voyez ?
Ah,
donc, il y a une exposition du mosaïste Isidore Odorico. Donc, cette expo, elle se tient au repère urbain, boulevard du Roi René. Donc jusqu'au 6 janvier, donc vous avez un peu le temps quand même encore, et c'est gratuit, donc profitez-en. Donc Isidore Odorico, c'est celui qui a fait la Maison Bleue, donc c'est un mosaïste d'art déco. Et en fait, son père, il vient d'une famille en fait qui vient du nord de l'Italie, et sa famille, le père était aussi dans la mosaïque, et le père est venu travailler en France pour l'Opéra Garnier, donc à Paris, et il décide d'y rester. Donc ensuite, il y a ses fils Isidore et Vincent qui deviennent mosaïstes à leur tour et ouvrent des ateliers à Angers, à Nantes et à Saint-Brieuc. Donc on trouve beaucoup de mosaïques réalisées par les frères Odorico dans l'Ouest, particulièrement, donc on a dit Angers, mais beaucoup à Rennes aussi.
Mm-hmm.
Et à Rennes, alors il y a 47 lieux où admirer ses œuvres quand même.
D'accord, donc, ah oui, connu quand même.
Et la maison où il vivait à l'époque d'Isidore Odorico vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Il y a une crêperie qui vient d'ouvrir et du coup on peut visiter la maison, sa maison de famille, quoi.
Donc nous c'est une œuvre d'art à ciel ouvert, du coup la Maison Bleue à Angers, à côté du boulevard Foch.
Ah bah oui tout à fait, mais
il y a l'intérieur aussi.
L'intérieur aussi est assez mosaïqué.
Oui, il y a des salles de bain, etc. Très et il y a Daniel Hednock en fait.
Ils ont tous des noms bizarres, hein, tes gens, mais.
Ouais, bah Daniel Lennox, c'est...
Oui, c'est ça.
Comment vous dire, c'est un spécialiste en fait d'Odorico. Et en fait, c'était un gardien d'immeuble à l'époque. Et il a lu un livre sur lui. Et tout d'un coup, il est devenu chercheur de trésors en fait de ses œuvres. Et il a découvert, il a recensé 20 000 œuvres sur 3 000 adresses.
Ah oui.
Donc tout ça, j'allais dire surtout dans les commerces, voilà, mais pas forcément dans le privé. Donc en fait, comme il dit, il y a encore beaucoup d'œuvres cachées dans les maisons privées. Et donc l'enquête reste ouverte pour découvrir ces œuvres.
Ah, je sais pas, dans la salle de bain, j'ai des mosaïques. Peut-être que ce serait de ton cocorico. Hein.
Et pourquoi alors en 1920 aussi, il a fait beaucoup de décors mosaïques dans les écoles, les hôpitaux. Et en 1920, la mosaïque est revenue à la mode parce que ça correspondait à des mesures d'hygiène adaptées. Donc voilà. Donc
ah bon.
À Angers, il y a l'arboristerie Saint-Aubin, le restaurant La Chouette, le café de l'hôtel d'Anjou.
Ah, la Chouette, c'est aussi, il y a aussi de la, il y a de la mosaïque dedans de lui. D'accord.
Donc si vous levez vos yeux, vous scintillez. Vous levez la tête, vous verrez vos yeux scintiller de bleu et de reflets dorés, les couleurs fétiches d'Isidore Odorico.
Elle a fini sa chronique ? Oui ?
C'était vraiment très intéressant.
Oh, 75%, c'est bon, tu l'as eu ! C'est monté à 75.
J'ai essayé de pas être trop longue.
Non, c'était bien. Oui, bah, sinon, on était déjà à 75. Je pense que t'aurais eu un jingle quand même
fort,
derrière.
Pas trop fort,
pas trop fort. Pas le dire trop fort.
Mais c'était très intéressant. Enfin,
oui, c'est intéressant. Et le rue, donc c'est oui, c'est l'ancien rue en fait.
Daniel Lennox qui est très intéressant.
La prochaine fois.
L'histoire de Daniel Lennox.
D'accord.
Bah, en fait, il est invité dans toutes les émissions
c'est
bon. De télé.
Il faut pas rester là, madame.
C'était vraiment très intéressant.
C'est moi, bah, voilà, je suis désolée.
C'était vraiment très intéressant.
T'arrêtes de jouer avec ton truc, toi.
Je suis gentil.
Allez, dans la suite de l'émission, nous ouvrirons d'autres tiroirs, dont des chroniques mystères que les chroniqueurs vont découvrir en même temps que vous. On aura un peu de musique et on découvrira la chanson improbable du jour. Mais avant, on va retrouver le Graal. Cette saison, le Graal a décidé d'être joueur. Vous allez devoir, en deux minutes, trouver le sujet d'une rencontre. Là, par exemple, le Graal doit vous faire découvrir une série. Vous jouez de chez vous, hein, vous donnant le plus rapidement possible le titre sur le chat radio-g.fr. Et même ici, autour de la table, vous pouvez bien sûr participer. Salut, partons à la rencontre d'une série. Un des personnages va vous raconter son incroyable histoire en vous donnant des indices. Vous avez deux minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti.
Salut. Je vais te raconter une histoire incroyable qui m'est arrivée, à moi et à mes amis. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je te jure que c'est vrai. Ça se passe dans une petite ville de l'Indiana. Tu sais, le genre de ville où il ne se passe jamais rien d'extraordinaire. Sauf que, pour nous, tout a changé un soir de novembre 83. Tout a commencé quand on jouait à Donjons et Dragons chez mon pote. On était tellement pris par le jeu qu'on n'a pas vu le temps passer. Quand je suis rentré, il faisait déjà nuit. Mais chez moi, c'était bizarre. J'ai vu une sorte de portail qui s'était ouvert dans le mur. C'était comme une plaie béante qui suintait du sang noir. Et derrière, il y avait un autre monde. Un monde sombre et froid, où tout était recouvert de cendres et de toiles d'araignées géantes. Un monde à l'envers. Voilà comment a commencé mon cauchemar. Mais ce n'était que le début d'une aventure incroyable, pleine de dangers, de mystères et de surprises. Une aventure où on a rencontré une fille aux pouvoirs étonnants. Où on a affronté des agents secrets et des scientifiques fous. Où on a découvert des secrets inimaginables sur notre monde et sur l'autre. Ça doit te paraître une chose étrange, mais c'est vrai.
Avez-vous trouvé le titre de cette série racontant l'histoire de Will et ses copains dans les années 80? Je vous laisse encore quelques secondes. C'était bien sûr Stranger Things qui a mis à l'envers Netflix dans cette série de science-fiction truffée de références des films des années 80. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Alors voilà, est-ce autour de la table, Orlan avait trouvé, Théo avait trouvé.
Pareil.
Voilà, aussi. Alors oui, non. Florian est resté à Colombo lui, donc du coup, il risquait pas de trouver une série des années 2000, 2010,
Colombo,
2020.
Les cités d'or, je dirais.
Olive, t'avais trouvé?
Bah oui.
Ah bah oui. Et Sandra aussi,
j'ai pas trouvé.
Non, pas trop.
Pas Netflix en même temps.
Ah, j'aime pas Netflix.
Désolé.
D'accord, on parle plus. Ok, très bien. Allez, dans un instant, on va découvrir les chroniques mystères. Donc, vous pouvez encore les travailler. Puisque nous allons maintenant avoir un peu de musique. Et surtout, en écouter. Je vous propose de découvrir Adélis. Je suppose que vous ne connaissez pas. Voilà, une petite découverte, ça fait toujours du bien. Elle a rêvé d'être chanteuse d'opéra, mais le conservatoire, c'était pas son truc. Et elle a donc décidé de faire ses propres musiques. Et là, on est un peu plus dans de l'électro assez cool. Voici Adélis avec Toutes les fenêtres et ruisseaux sur Radio G. Eh bien voilà, c'était Adélis. Est-ce que vous aimez bien ? Ouais. C'est cool à écouter, je trouve.
Ça va.
Ça va. Bon, ceux qui ont écouté Topette, l'émission d'avant, c'était du hard metal. Donc, c'est vrai que ça change un tout petit peu. Est-ce qu'on a des messages sur le chat, Joe ?
Merci pour le micro. Ouais, donc du coup, il y a un mec qui s'appelle aussi DMT. Donc, j'ai failli le ban, mais bon, finalement, en fait, il s'est appelé Dans mon tramway. Donc, c'est assez drôle, ça va. Donc, il nous souhaite une bonne émission. Et il y a Générique qui nous dit qu'il y a un spécial film d'horreur dimanche prochain. Donc, soyez à l'écoute, il fait sa promo.
Ah oui, bah c'est luxe. Alors, s'il y a un film d'horreur, ça veut dire qu'il est en vidéo.
Oh.
Ouais, allez, c'était gratuit. Ah, c'est bon. Voilà, allez. Continuez l'émission, du coup. Ah, bah ça y est, on y est. Hein. Ça va être l'heure de la chronique mystère.
C'est l'heure de la chronique mystère.
Durant la pause, les chroniqueurs ont pu découvrir des sujets qui vont devoir rendre passionnants. À vous de voter sur le site radio-g.fr pour les encourager ou les stopper. Alors ce soir, c'est un spécial Angers. Allez, on commence avec Olivier.
Oui, alors je me suis demandé ce que voulait dire le G de Radio G. Alors non, le G de Radio G, c'est pas le G de gay. Alors certes, la radio est très ouverte au goût de chacun. Elle a même une émission LGBT, mais sa grille de programme n'est pas aussi segmentante. Donc le G, en fait, a une toute autre signification. Alors en fait, cette radio est une association, l'AAEC. Ça s'appelle l'Association Angevine pour l'extension des communications. Oui, alors comme nom de radio, ça aurait été un peu compliqué. Du coup, il y a eu un vote des adhérents en 1981, à la création de la radio,
ouais.
Un vote pour trouver un nom. Et c'est Radio Gribouille qui est sorti du chapeau. On va dire que ça allait avec l'époque.
Oui, tu m'étonnes, aujourd'hui c'est un
ouais, une radio gribouille. Et puis en 2000, la radio, elle a bien failli fermer. Et elle se relève quand même, mais change de nom pour un plus moderne. Donc Radio G, gardant ainsi le G de gribouille, qui à ma connaissance, lui, n'était pas gay.
D'accord. C'est vrai, gribouille, il y avait un gribouille dans les dessins animés. Gribouille, ouais, ouais, gribouille, c'était mignon.
Oui, c'était mignon.
Mais on a bien fait de changer.
À l'époque, gribouille, c'était pas un petit personnage.
Oui, c'est un petit personnage qui dessinait. Animés, je sais pas s'ils l'ont pris par rapport à ça. Sandra! On parle de quoi dans ta chronique mystère, hein, devant le
Alors,
micro?
On va parler de la place Lafayette à Angers. Donc la place Lafayette, elle a été construite sur un cimetière.
Ah bah c'est voilà. Gay.
Ouais. Moi-même je ne savais pas, j'ai habité là-bas. Donc ça calme. Donc à l'origine on y a planté plein de magnolias. En fait elle portait même le nom de la place de Magnolia. Mais comme une caserne s'y est implantée, on l'a ensuite appelée place du quartier de la cavalerie. Ensuite, on a fait dégager les arbres et on a mis plein de bosquets.
Ouais.
Et donc, les bosquets, bah, c'est malheureusement fait pour. C'est devenu plutôt des lieux de rencontres galantes très rapidement.
Ah d'accord, je vois.
Voilà, galantes, si on peut dire.
Ok, ça consommait
du
sur
coup,
place.
On a très vite rasé tout ça pour installer, eh bien, à la place un marché, d'ailleurs, qui existe toujours. Pendant les bombardements de 1944, on y installa des baraquements pour reloger les sinistrés. Et ces baraques sur la place ont quand même duré jusqu'en 1955. Et pour le nom actuel, c'est-à-dire Place Lafayette, il date de 1893. Le conseil municipal décidant de lui donner le nom du libérateur des États-Unis, le marquis de Lafayette.
Ah.
Voilà.
Okay.
Pourquoi je sais pas. Effectivement.
Très bien. Ben, on a su pas mal de choses. Et ça passionne les auditeurs. On n'a pas eu de stop. Ouais. C'est parfait. Merci, Sandra. Alors, Joe, tu nous parles de quoi?
Alors, moi, je vais vous parler du pont de Verdun à Angers. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le pont de Verdun? J'adore votre enthousiasme.
La bataille de Verdun?
Alors, donc, du coup, le pont de Verdun, c'est le pont en pierre qui est au centre de la ville. Et il permet d'accéder à d'autres rivières, autrement dit, bah, la Doutre. Et il s'appelait le pont du centre. Et à l'origine, il était en bois. Et il était construit sur les ruines d'un ouvrage gallo-romain. Le fameux.
Et en quelle année, alors, à peu près?
Parce que c'est très, très drôle parce que, évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question vu que je lis une chronique que je ne connaissais pas. Le but était de me piéger. Alors, 11e siècle, on le refait en pierre et on y installe des maisons. Ouais, des maisons et des commerces de luxe. Trop la classe. Alors, tout ça jusqu'en 1837 où c'est redevenu un pont tout simple. Simple mais fragile parce qu'il a été endommagé par les inondations. Alors, on en a donc refait un, donc celui d'aujourd'hui, en 1848. On lui a mis une statue en 1881, celle de Beaurepaire, fier soldat à la poutre apparente. Et c'est à cette époque que le tramway emprunte ce pont qu'on appela Pont de Verdun en 1921 du nom de la triste bataille du même nom, de 1792, entre les forces françaises de la Révolution et une armée prussienne. Il a quand même été dynamité en 44 et réparé deux ans après en 46.
Ah d'accord, donc il y avait un tram déjà à l'époque et qui passait sur ce pont-là. Et donc maintenant, il passe sur le pont qui est à côté. Ah bah écoute, ça passionne tout le monde. C'est parfait, je crois qu'on passionne tout le monde ce soir. Florian,
oui.
C'est quoi ta chronique mystère?
Alors,
spécial Angers, on rappelle ce soir.
Alors, est-ce que vous savez pourquoi la Maine s'appelle la Maine?
Ah, bonne question.
Oui.
C'est religieux pour Joe. La Maine, amen. Ah, bah oui. D'accord, c'était de la vanne.
Ou c'est maraîcher, la Maine ta fraise. Alors, du coup...
pas mal. Bon,
alors, bon, cette histoire de Maine, je sais pas quoi, c'est un peu le bordel. Parce qu'en fait, la Maine, c'est le mélange des rivières, donc Sarthe et Mayenne. Et elle est longue de 11,5 km, puisqu'après, elle disparaît dans la Loire.
C'est pas long.
Voilà, donc c'est effectivement pas long.
C'est la plus petite. Oui, je pense, c'est la plus petite.
Ouais, donc c'était bien la peine, effectivement, de la...
Il n'avait pas de micro, heureusement. Hein.
C'était bien la peine de lui donner un nom différent. Bref, certains disent que c'est juste la continuité en fait, de la Mayenne. D'ailleurs, on l'appelle aussi la Mayenne. Alors, pas écrit pareil, avec un I tréma.
Ah, la Mayenne.
Ce qui veut dire rivière du milieu.
D'accord.
Bon, alors, c'est là que ça commence à devenir chelou, parce que les rivières donnent souvent le nom au département.
Ah oui.
Et figurez-vous que le 15 mars 1790, un décret de l'Assemblée dit que le département donc, du Maine-et-Loire, aujourd'hui, s'appellera Mayenne-et-Loire. Mais le 25 juin, le roi dit que c'est n'importe quoi.
Oh,
il n'a peut-être pas dit ça comme ça, mais en gros, c'est ça. Et dit que le département devrait s'appeler Maine-et-Loire. Bref, c'est encore le bordel, et les deux noms ont cohabité jusqu'en 1794, où Maine-et-Loire s'est imposé, précisant de fait que la rivière s'appelle bien la Maine.
Okay.
Et pour info, le bras qui relie la Mayenne à la Sarthe derrière l'île Saint-Aubin, ça s'appelle la vieille Maine.
Ok, très bien, parfait. Ben écoute, encore une info qui a passionné beaucoup de monde.
Et moi, je dis que c'est la Mayenne.
Toi, c'est la Mayenne. Oui, c'est la continuité de la Mayenne, effectivement.
C'est celle qui a le plus de débit. C'est le cours
de
la
plus oui. de débit. Donc, du coup, c'est la Mayenne.
Ok, bon. Théo.
Alors, moi, je vais parler de la rue des Lys. Pourquoi cette rue s'appelle la rue des Lys?
Ah, c'est la fleur la fleur de Lys.
Ah. Donc, la rue des Lys date de 1829. Elle ne s'appelait pas comme ça à cette époque. Elle portait en effet le nom de rue Dauphine en l'honneur de la duchesse d'Angoulême. Donc après la Révolution, elle changera de nom pour rue des Lys, permettant aux commerçants de faire tout un tas de jeux de mots bien pourris pour leurs enseignes.
Ah oui, des Lys café, des Lys comme oui.
Donc avant de vous dire ce que signifie ce nom, sachez que la rue n'avait des maisons que d'un côté. En effet, il n'y avait que des bosquets du côté préfecture.
Ah ça, les bosquets, elle aime bien Sandra, tout à l'heure, elle l'a dit.
C'est vrai. Bon, maintenant, voyons enfin pourquoi rue des Lys. En fait, c'était juste pour rappeler les tournois qui se déroulaient au temps des comtes d'Anjou autour du château. On appelait ça des lys, d'où l'expression « être en lys » pour dire qu'on participe au jeu lys, L-I-C-E.
Ah bah oui, forcément. On en apprend des choses ce soir. Bon, très bien. Et on finit avec Orlan. Hop, un petit micro pour Orlan.
Je joue entre deux micros, il fallait que je choisisse. Eh ben moi, je vais rester sur le pont de Verdun.
Oui.
Et moi, je vais parler de la statue. Donc, du coup, t'as un petit peu spoilé tout à l'heure en demandant
qui était
la statue sur le pont de Verdun à Angers. Donc, déjà, c'est en 1791, donc le fameux Nicolas Beaurepaire, donc il devient lieutenant-colonel du 1er bataillon des volontaires de Maine-et-Loire, donc plutôt la classe, et il est même Pangevin. Donc, c'est plutôt fort ou pas, ça dépend de quel côté on se place. Quand en 1792 la guerre éclate, on envoie toute sa belle garnison de 6000 hommes à Verdun. Ça se passe pas très bien, pas du tout même. Donc l'armée prussienne assiège la ville. Lui, Nico, il cède pas. C'est non, on résiste. Du coup, il se fait bombarder. Donc là, c'est la panique générale. Tout le monde est d'accord pour rentrer. Tout le monde, sauf Beaurepaire, qui reste droit dans ses bottes. On l'a alors retrouvé mort dans son bureau, suicide ou meurtre, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez saluer son courage et sa poutre apparente, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous passez sur le pont de Verdun à Angers.
Ok, on va regarder ça de plus près.
Ça porte bonheur si...
Si on le touche, elle est très haute en fait, donc on a du mal à toucher. Mais elle est peinte régulièrement par des étudiants à chaque fois. Non, c'est bon, on va arrêter là. Allez, bah écoutez, merci pour ça. Vous êtes, on aura d'autres tout à l'heure. Faudrait qu'on en écrive des plus nuls, hein, parce que là, les gens, en fait, ils écoutent, ils aiment bien. Donc ils squattent. Alors voilà. Allez, il est temps de rouvrir vos propres tiroirs à vous. Les auditeurs seront juges de l'intérêt de vos propres sujets sur le site radio-g.fr en votant en live ou en envoyant un message sur le chat. Faites-vous plaisir, c'est parti. Et on repart avec Sandra.
Ah bah, je suis bien contente.
Alors, les bosquets.
Parce que notre sujet, il est encore mieux que Isidore ou Dorico.
Ah, elle a peur que de s'en prendre une.
Donc là, je vais vous parler du festival des Orthodales. Oula. Vous savez, qui est le week-end prochain.
Ah oui, avec les cucurbitacées.
C'est ça,
tout
avec
ça,
les cucurbitacées. Ah, oui. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire des cucurbitacées et de ce festival, en fait. Donc,
Vas-y.
Le festival des orthodales du Prieuré, donc c'est à Saint-Rémy-la-Varenne. Et pourquoi les orthodales? En fait, ça vient du latin hortus, ça veut dire jardin d'automne. Donc ce festival, il a débuté il y a 30 ans. Et Daniel Cour, c'est le fondateur de l'association, se décide en 1989 de sauver le patrimoine en fait de ce village qui est ce monastère, en fait, le Prieuré. Et on se dit, bah c'est une idée quand même peut-être un peu farfelue, peut-être voire même improbable de sauver un patrimoine avec des courges, on va dire, ou des potirons, etc. Mmh. Et oui, et finalement, l'objectif, c'est de faire venir le public autour d'animations sur ces drôles de légumes. Et c'est un succès. Les financiers publics sont prêts à financer les travaux. Donc je vous encourage du coup à aller. J'y suis allée deux fois, moi, c'est très bien. On est
les
dans
travaux,
l'ambiance.
Tu veux dire
ils ont les travaux du prieuré. En fait, ils voulaient, c'est une sorte de monastère d'église,
ouais.
Ils voulaient garder intact.
Et là, il y a un jardin qui est dedans.
Parce qu'il est en ruine, sinon.
D'accord.
Oui, et du coup, grâce à ce festival, qui est lié autour des cucurbitacées, et bien du coup, finance, les finances... Ouais, c'est une association bénévole.
D'accord.
Donc, ils font ils font les potagers, voilà, eux-mêmes, ils font les décors, tout est autour de ça. Enfin,
d'accord.
Il y a la cuisine, t'as des frites au potiron, t'as tout.
Oui, alors dans les cucurbitacées, on a quoi ? On a potiron.
On a 800 espèces quand même.
Ah oui, on va peut-être les citer.
Non,
quand
on va
même,
pas les citer, ouais. Mais on a les citrouilles, les potimarrons, les pâtissons, les butternuts.
Ouais.
Et même le melon et les courgettes.
Ah, ça fait partie.
Ça en fait partie.
Moins de saison, mais.
Et il faut pas les confondre aussi. Enfin, il y a les coloquintes aussi qui font partie des cucurbitacées, mais là, c'est les coloquintes, c'est pour les décors en fait.
Ouais, ça se mange pas. Ouais.
Voilà, c'est d'accord. Toxique, c'est pour plus le décor. Et elles ont été, ça a été découvert par Christophe Colomb à Cuba en 1492.
Mm-hmm.
Et ensuite, donc elles sont, c'est d'origine d'Amérique centrale d'abord. Et à l'époque, les courges en fait contenaient peu de chair et se servaient en fait plutôt pour les ustensiles de cuisine, les instruments de musique. Et des gourdes en fait. On appelait ça des calebasses à l'époque.
J'ai peur.
Voilà.
Ouais, t'as eu un stop, je suis désolé.
Ah,
ouais, mais t'avais presque tout dit.
J'avais presque tout dit.
J'avais l'impression d'entendre notre ancien chroniqueur.
Il fallait que j'en parle pour qu'au moins.
Il faisait du cucurbitacé, effectivement. Titouan nous en parlait beaucoup. Donc, nous en sommes à qui je regarde Florian.
D'accord.
Voilà.
Il n'avait pas prévu
une deuxième chronique. Si, bien sûr. Il a travaillé.
Alors, ne stoppez pas tout de suite.
Ah, il prévient déjà. J'ai reseté, c'est
bon. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé dans mon tiroir cette fois-ci ? Un jeu.
Ah.
Un Monopoly, par exemple. Voilà.
Un Monopoly ? Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps, du Monopoly.
Ouais. Oui, bah, on... pas grave, je ne fais pas ça sur le Monopoly.
Ah, mais... d'accord, j'ai eu peur. Ok.
Non, mais un jeu
de société.
Un Monopoly en mode un jeu de plateau où okay. Les parties durent. Longtemps, voire très longtemps,
chiantes,
voire
ouais.
Des jours, et on laisse ça dans un coin, machin. Ouais. Enfin, c'est un peu casse-pied. Mais en fait, j'ai découvert d'autres jeux, mais je pense que vous connaissez en fait déjà, parce que vous êtes un peu geek quand même sur les bords. Et c'est Seven Wonders.
Oui.
Voilà.
Ah bah non, je connais pas.
Ah bah ça, regarde.
Pas.
Ah, il connaît pas.
Quoi
là, tu mets, je suis content.
Alors, je
t'écoute.
Il connaît par cœur.
Ou la partie duel, en fait, Seven Wonders, ou d'autres extensions. Alors, c'est un jeu qui a été édité en 2010, donc ça a
13 ans.
13 ans, voilà, par Repos Productions, c'est une boîte belge à l'époque, mais qui a été rachetée par Asmodée. Alors Asmodée, c'est pareil, c'est assez connu, puisqu'ils font pas mal de jeux, de petits jeux, où les parties durent assez courtes. Et c'est ce qui est plaisant, en fait, avec ce jeu, c'est que les parties durent une demi-heure à peu près, enfin trois quarts d'heure, enfin c'est assez court, en fait, comparé aux autres jeux qu'on connaissait il y a 30, 40 ans, du coup, qui étaient assez longs. Et en fait, le principe de ce jeu-là, c'est de développer sa cité ou sa civilisation et remporter, bien sûr, la partie, la victoire. Alors, soit une victoire militaire, soit une victoire via la recherche, soit une victoire civile par des points de victoire. Et en fait, on a des petites cartes. En fait, c'est des bâtiments qui sont sur les cartes et autres. Et en fait, il faut accumuler, il faut acheter en fait, ces cartes ou récupérer ces cartes quand on a les bonnes ressources. Voilà. Mmh.
T'es à 50, hein?
Oui, très bien. Alors, c'est un jeu primé à plusieurs reprises. C'est un jeu très, très connu. Il y a eu 30 récompenses dans le monde pour ce jeu-là.
Donc il y a beaucoup d'extensions.
Il est très reconnu. Il y a quelques extensions. Effectivement, c'est très bien fait, je trouve. C'est un univers historique, hein, du coup. Mmh. Mais c'est assez plaisant et complet. C'est sous forme de cartes, voilà. La mécanique du jeu peut paraître un peu complexe au début. Il y a pas mal de règles. Il faut bien comprendre les règles. Mais finalement, au bout de la première, deuxième partie, on comprend le truc assez vite et on s'y fait. Et c'est assez riche aussi puisqu'il y a plein de façons de gagner et il y a aucune partie qui se ressemble aussi puisque les cartes peuvent être mises de façon différente à chaque fois. Et c'est un peu le hasard. Hein. Il y a aussi un peu
de stratégie.
Il y a du hasard et il y a de la stratégie
aussi,
effectivement d'accord. Parce qu'il faut quand même récupérer les bonnes cartes aussi en fonction de son adversaire ou de ses adversaires. Donc voilà, donc ça mixe un peu les deux hasard et stratégie. Donc c'est assez bien. La partie est rapide. Voilà, donc ça permet de s'amuser en fait rapidement. Et de façon très intéressante. Enfin, voilà, c'est
nickel.
C'est bien. Donc,
Théo connaissait pas. Est-ce que ça te donne envie d'y jouer?
Bah, j'ai rien compris. mais je pense qu'il faut y jouer pour comprendre, parce que.
Voilà. Oui.
Donc c'est une invitation, hein. Ok, tu lui montreras.
Bien, là, okay. Alors
comment ça marche? Bon, en tout cas.
C'était vraiment très intéressant.
C'est bon, tu l'as eu. C'est parfait.
Je suis à 2.
Oui, c'est vrai, hein, 75%. C'est pas mal. Ça passe. Donc nous en sommes à Olivier.
Oui, dans mon tiroir, j'ai retrouvé un livre qui m'avait assez fasciné quand j'étais gamin. C'est les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Il y En fait, c'est plein de petites histoires. Garland Poe, c'est un romancier américain du 19e siècle. Et il avait écrit plein de petites histoires fantastiques autour de meurtres, de maisons hantées et tout. Il y avait notamment le double assassinat dans la rue Morgue et aussi la chute de la maison Usher. Et justement, la chute de la maison Usher, ça a inspiré une série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'ai quasiment vue intégralement et qui est vraiment extraordinaire. C'est une série spécial Halloween, c'est Mike Flanagan qui l'a fait cette série. Il a déjà fait pas mal de séries autour de maisons hantées. Et là, c'est une vraie merveille ce film. Alors, la série en fait, elle pioche dans toutes les histoires d'Edgar Allan Poe et chaque épisode a le nom d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe.
D'accord.
Donc c'est ça qui est sympa. Donc on suit dans l'histoire une famille de milliardaires qui s'appelle les Usher et qui ont fait fortune dans les médicaments et notamment les opiacés.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Hein? Ils viennent te prendre un jingle dans la tronche.
Ah merde. Ben, c'est très bien.
Je suis désolé.
De toute façon, t'avais rien d'autre.
Voilà. C'est pas
trop. Je la remettrai dans 15 jours.
C'est bon. Ouais. Hein? Oh là, 125. En plus, il y en a qui sont un peu énervés au bout de... Bon, on va faire un petit reset là. Bon, rapidement, Joe, un petit jeu, parce qu'on avait fait un premier jeu. Tu veux le faire ou la prochaine fois?
Tu parles d'une chronique sur un jeu, c'est ça? Ah non, j'ai sur un film.
Ah, c'est le film, d'accord.
Si ça te va, oui, hein, vas-y, sinon... Vas-y, ok. Alors... Oui. Attends, je récupère juste mes notes, excuse-moi. Donc du coup, moi récemment, dans mon tiroir, j'ai retrouvé mes cahiers d'école. Et ça m'a fait penser à un film qui vient de sortir, c'était le 13 septembre dernièrement. C'est Un métier sérieux. Est-ce que vous l'avez vu autour de la table?
Non.
Je l'ai pas vu, mais je vois...
D'accord, alors donc du coup c'est un film qui parle du métier... Bah oui, tu as vu, tu étais avec moi effectivement.
Ah oui,
c'est un film qui parle du métier de prof.
Ah, ok.
Donc, c'est avec Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Je pensais pas que je le dirais en une seule fois.
Oui, bien.
Et j'ai franchement été bluffé par le film parce que j'ai travaillé sur un truc en parallèle où il y avait une interview d'Adèle et de William Legby. Et en fait, je connaissais pas du tout le film. Ça m'a tenté, mais je pensais que c'était une comédie. Et en fait, on est beaucoup plus sur la comédie dramatique parce qu'il y a pas mal de choses où je pense qu'ils ont vraiment voulu aller dans le réel. Et dans des trucs assez, auxquels on pense pas nécessairement quand on parle des profs. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un élève qui a fait des bêtises. Et, les profs doivent lui mettre un conseil de discipline. Mais en fait, ils veulent pas. Parce qu'ils disent, en fait, le problème, c'est qu'on sait comment ça fonctionne, hein, un conseil de discipline. C'est qu'à la fin, le gosse, on va le virer, quoi. C'est toujours pareil. Et c'est marrant parce que ce gosse, il a fait du mal, surtout à un des professeurs. Enfin. Il a fait du mal, je veux dire, voilà, il a fait vraiment une grosse bêtise. Et il y a vraiment ce côté humain des profs en mode, mais on sait que si on fait ça, on le fusille, quoi. Hein, on le fait sortir du système scolaire. Et j'ai trouvé ça vachement étonnant de voir cet aspect où les profs, il y avait un côté très humain, où ils pensent à leur classe. Alors, ils ont aussi leurs problèmes. Ils vivent dans des trucs où, ils ont aussi des problèmes avec leur famille et tout. Et bref, c'est un très, très bon film. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Je sais pas si toi, tu l'as vu, Olivier mettre au cinéma. Non.
En fait, il y a des super films français en ce moment là, mais je vais aller le voir, je pense.
Mais ouais, je te le conseille.
Ok, vas-y, t'as le droit.
C'était vraiment très intéressant.
Voilà, jingle, parfait. Allez, c'est le moment de la pause improbable. Oh, il est content.
Ouais.
Alors, en ce moment, sur Netflix, on peut découvrir la série Tapie, qui donc revient sur la vie plus ou moins mouvementée de Bernard Tapie, qui, aussi sympathique soit-il, était quand même un sacré filou. Mmh. En résumé, il a été entrepreneur dans les années 70, repreneur d'entreprise en faillite dans les années 80, patron d'équipe de sport, cyclisme, voile, football dans les années 90. Entre-temps, il devient animateur de télévision, de 86 à 88. On le verra aussi dans de nombreuses émissions comme Gym Tonic, où il faisait du sport, ou encore dans des pubs cultes, comme celle de Wonder, entreprise de piles qu'il a rachetée en 1984. Il sera ministre de la ville sous Mitterrand, mais on ne peut pas dire que ce soit sa meilleure période. Il a donc fait toutes les cases du Monopoly et même passé par la case prison. Il nous a quitté en 2021 des suites d'un cancer. Mais quel rapport avec la pause improbable, vous allez me dire? Eh bien, en plus de tout ça, Bernard Tapie s'est essayé à la chanson. En 1966, il sort son premier titre, Je ne crois plus les filles.
La première que j'ai crue m'avait semblé sincère. Elle avait l'air d'une ingénue. Elle en avait seulement l'air. Car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Des heures entières, j'en devenais fou. Mes bouquets de fleurs se fanaient. Je ne crois plus les filles.
Donc, Donc voilà, ça te plaît mieux ça comme musique?
Oui, ah oui, c'est super.
Ah, ça c'est bien. Tu dis ça fait Sacha Distel, c'est ça?
Sacha Distel un peu. Ouais.
Un petit peu, donc 66. Alors, en 1985, en collaboration avec Didier Barbelivien, et là on va bien voir la touche, il nous dit qu'il faut réussir sa vie.
Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magique, où tu es géant.
François Valéry, un peu celle-ci, tu dis, un peu, ouais, voilà, réussir sa vie, en tout cas, on sent bien quand même du Barbelivien.
Il a une ambition aussi, ambition. Là,
il a, voilà, il a fait la télé, oui, tout à fait.
Ça, je crois pas.
Au début, ouais, à la fin, en 86. Donc ça, c'était en 85, mais le plus improbable, c'est son dernier duo. Nous sommes en 1996. Alors, Tapi, il est à terre, il est ruiné et les affaires judiciaires lui collent au basket. Doc Gineco, lui, est un chanteur au sommet de sa gloire. Donc, il fait un album de duo et, fasciné par le personnage de Tapi, il lui propose de poser sa voix sur un titre. Alors, chose qu'il regrettera plus tard, hein, car Bernard Tapi ne transmettait pas vraiment les mêmes valeurs que le chanteur Doc Gineco. Ce soir, on vous propose donc de découvrir ou redécouvrir cette association improbable, Bernard Tapie, Doc Gineco, avec le titre « C'est beau la vie » avec des paroles, vous verrez, pour le moins perturbantes. À vous de voter pour la voir en entier ou la stopper sur le site radio-g.fr.
Hey, Fomblard, j'ai rancard avec Nanar. Appelle les ch'tarves, la Bruno ou Escobar.
Touché mais pas coulé, merci de l'invitation.
Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens.
La rue, c'est mon terrain, chacun sa part pour la gare.
Tu les as vus, les petits taulards? Tu les as croisés au parloir?
J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard.
Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt.
Arrête de compter en barrette, on te manipule la tête. Tu votes, mon pote.
Quoi? Qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
le gangster
qui contrôle l'affaire.
C'est beau la vie.
Oh, oui.
C'est beau la vie.
C'est beau la vie.
C'est beau.
Eh ben voilà, au moins ils réagissent. Hein, c'est, voilà, vous avez été à 100%.
150%.
Ah là, bah, ils étaient à fond. Bon, bah écoutez, c'était Bernard Tapie, voilà. Avec Doc Gineco en 1997. Allez, on rouvre nos tiroirs mystérieux, on remet les compteurs à zéro et on vote sur radio-g.fr. On reste dans le même thème, c'est Angers ce soir.
C'est l'heure de la chronique mystère.
On va commencer avec Joe. Joe, ta chronique mystère.
Excuse-moi, c'est pas vrai. Alors, une petite question. Est-ce que vous savez combien le château d'Angers, il a de tours?
17 ou 18. 18.
T'es pas loin. Je vous donnerai la réponse après. Alors, donc, du coup, le château, il est pas tout neuf. Le premier fort, il date du 9e siècle. Alors, c'est pour dire. Et quelques temps plus tard, après moult guerres et changements de proprio, c'est Blanche de Castille et son enfant Saint-Louis qui prend une carte de fidélité Castorama pour tout relooker et en faire une véritable forteresse.
C'est la carte Castorama qui... Oui. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais je trouve ça très drôle.
Alors ça va continuer à se friter et on va faire des tours et qui seront des terrasses pour l'artillerie. Alors le château, il est alors devenu une prison, puis un dépôt d'armes. Et alors aujourd'hui, il est beaucoup plus pacifiste parce qu'il abrite une tapisserie du Moyen-Âge. Vous savez laquelle ?
Apocalypse.
Tout à fait. Et donc, pour répondre à la question du début, donc il a bien 17 tours de 12 mètres de large et espacé de 20 mètres. Et le chemin qui relie toutes les tours, alors à votre avis, il fait combien de mètres ?
Le chemin total ?
1 kilomètre ?
Tout à fait. T'as toute la... Si, c'est exactement ça. Il fait 1 kilomètre entre toutes les tours, donc c'est dire qu'il est grand. Voilà.
Eh ben c'est bon, allez, t'as ton jingle, vas-y, tu le mets. T'as
50%, c'était vraiment très intéressant.
Bon. Allez, on continue avec Olivier.
Oui, alors c'est quoi la maison d'Adam à Angers ?
Ah !
Alors l'historique, nous sommes au 15e siècle, oui ça date, le terrain appartient à la famille Lefebvre qui construit une maison en 1491. Elle va être occupée au fil du temps par de nombreux marchands, mais aucun ne s'appelle Adam et encore moins Ève. Alors difficile de savoir pourquoi elle s'appelle maison d'Adam en la regardant aujourd'hui, et pour cause. Alors le secret, eh bien en fait c'est dans le pilier qui est à l'angle. À l'origine, donc il y avait une représentation d'Adam et Ève avec un serpent. Mais à la Révolution, donc les révolutionnaires modifient quelque peu cette représentation et ils effacent le motif pour ne laisser que l'arbre.
Ah,
Okay. Alors remarquez, les sculpteurs du XVe siècle avaient aussi beaucoup d'humour. À vous de trouver le tricouillard. Donc, le tricouillard, c'est un personnage au pantalon baissé, service trois pièces bien visibles sur le côté de la maison. Voilà, le tricouillard. Donc elle est actuellement en rénovation suite à un défaut d'étanchéité de la toiture. Il y en a pour près de 2 millions d'euros, dont un tiers est supporté par l'État et le reste par la Soclova. Okay. Parce que c'est avant tout une résidence.
Soclova. Ok, très bien. Bah, merci Olivier.
C'était vraiment très intéressant.
On va passer à Florian.
Oui, je vais vous parler de la place du ralliement. Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle la place du ralliement ?
Parce qu'on s'y rallie.
Un petit peu. Alors déjà, ceux qui ont construit le parking en dessous ont dû avoir des surprises parce que la place du ralliement, à la base, elle est construite sur trois cimetières. Un peu comme la place Lafayette, du coup, de tout à l'heure. Voilà. Oui. Il n'y a aucun rapport avec le ralliement, en fait. En tout cas, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Cette place, c'est aussi appelée place Saint-Maurille. Donc place du ralliement, bien sûr, place de la Guillotine, place des Victoires, place Charles X, et depuis 1830, à nouveau place du ralliement. En fait, c'est là que se regroupaient les soldats. D'où son nom de ralliement.
Ok.
Voilà. Et les voitures pouvaient en faire le tour jusqu'en 1914.
Oh, c'est pas grave. C'était non, presque la fin.
C'était la fin de la chronique.
Il y a beaucoup de cimetières. Ouais. Théo.
Alors moi, je vais parler de l'électricité et Angers. Alors, depuis quand Angers a l'électricité ? Donc vous imaginez bien qu'avant que la ville d'Angers ait l'électricité, bah elle n'en avait pas, tout simplement. Mm-hmm. Du coup, pour se tenir au courant, ce n'était pas gagné. Voilà, petite blague bien placée.
Humour, ouais, bravo.
N'empêche qu'à la fin du 19e siècle, on a installé des usines électriques au cœur de la ville. C'était des genres de gros groupes électrogènes qui marchaient à la vapeur. À Angers, c'est en 1900 qu'est implantée une de ces grosses dynamos, qu'est Félix Faure, non loin de l'actuel cinéma Gaumont. Mmh. En 1902, cette mini-centrale alimentera 900 lampadaires dans la ville à la place des versions à gaz.
Ah ok, bon voilà, bah, c'était comme ça qu'a commencé l'électricité à Angers. Parfait, bon écoute, tu l'as eu 25%, ça le fait.
C'est
on finit avec Orlane.
Très intéressant. Eh bien moi, je vais vous parler de la grande tour qui est à côté du pont de l'hôpital sur Angers. Donc c'est la tour au bout du pont de la Haute-Chaîne, rive droite sur Angers. Elle a l'air perdue, toute seule, et elle est là depuis 1448. Donc à l'époque, la rivière, elle passait à ses pieds, bon, c'est un peu moins le cas maintenant. C'était un poste d'observation pour ceux qui entraient par la rivière. Bah oui, du coup, ça rigolait pas hein, à ce temps-là. Personne ne passait comme ça, qui voulait, c'était pas possible. Donc la nuit, on tendait une lourde chaîne d'une rive à l'autre pour bloquer les bateaux. Et aujourd'hui, il y a un pont à la place et... Voilà, comme c'est original, ça s'appelle le pont de la Haute-Chaîne. Haute parce qu'elle est en amont de la ville et la tour était donc là pour héberger les soldats. Voilà, courte anecdote.
Bravo,
c'était
très
vraiment
bien.
Très intéressant.
Parfait. Alors, on va pas avoir le temps pour le Graal, donc on va tout de suite caler la chanson 13, s'il te plaît. Donc, on va se quitter sur... On a parlé de Doc Gynéco tout à l'heure. Donc, il a été repris parce que ses paroles de chansons étaient pas mal, quelquefois, quand même, Gynéco, il était assez poète. Et donc, ça a été repris avec... c'est le cas de Dans ma rue, ça avait été repris par Dac M, et on va se quitter là-dessus. Et on va se dire au revoir, puisque c'est déjà la fin de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Donc, merci aux chroniqueurs de ce soir. Merci, Joe, qui a fait réaliser l'émission.
Je t'en prie, merci à toi.
Merci donc à... Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Sandra, qui est...
Merci.
Qui va retourner dans ses bosquets. Merci à Florian.
Eh ben merci, bonne soirée.
Merci Olivier.
Ben merci.
Merci Théo.
Merci.
Ouais, qui commence à prendre ses marques ici, hein. Ça fait déjà
un
trois émissions,
peu,
hein, quand même. Il va finir par faire des chroniques, moi, je vous le dis, hein. Allez, on se retrouve dans 15 jours, même heure,
t'as
même
endroit. Chez quelqu'un.
Chez Olivier? Orlane. J'avais pas vu. Bah oui, parce qu'elle a. Oui, j'avais pas vu Olivier non plus. Donc, Olivier, ok. Et Orlane aussi, merci.
Merci.
Oh là là, excuse-moi.
Merci Bruno.
Moi, quand c'est pas marqué sur le texte, tu vois, il faut me prévenir à l'avance. Oh. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit, en direct. Ce sera un spécial Halloween, puisqu'on sera le 31. Donc vous allez voir, ça va être assez spécial. Il est temps de refermer nos tiroirs, mais n'oubliez pas, avec DMT, vous avez le pouvoir. Bonne soirée à vous.
rue est bourrée de vis, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main, ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les chinois s'entraident et se tiennent par la main, les youpas s'éclatent et font les magasins, et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, c'est une pub pour Benetton, et tout le monde écoute, les mêmes sont à fond, mangeurs de cachère ou de saucisson. Ah. Dans ma rue, je suis posé, je marche tranquille dans la ville, j'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime, et elle s'appelle le 18ème. Dans ma rue, il faut être trilingue et faire attention quand on marche sur des seringues, se méfier des dingues qui sortent leurs flingues. Dans ma rue, les péripatéticiennes craquent pour du crack, les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Personne ne veut tenter le bouche à bouche, les clodos s'échappent pour ne pas prendre de douche. Dans ma rue, le vendeur de grec veut nous empoisonner, sa viande est bizarre, son